Ailleurs que sur la Terre, la probabilité de trouver de la vie est extrêmement réduite.
L'association lausérienne pour l'étude et la protection de l'environnement.
Ouvrez grand les yeux, vous allez découvrir l'effet sans doute le plus immédiat des changements climatiques.
48 FM vous présente les chroniques de l'Allée.
Une telle profusion et variété de vie que l'on appelle aujourd'hui la biodiversité.
Muriel Duguay, les chroniques de l'Allée.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre nouvelle chronique de l'ALEP. Nous sommes en début de février et nous avons, si je dis pas de bêtises, Muriel va confirmer, une émission un peu spéciale aujourd'hui.
Un peu spéciale, ouais, on peut le voir comme ça.
Je sais pas, tu m'as mis un coup de pression quand tu m'as dit, quand tu préparais l'émission, j'hésite à t'envoyer le scénario quand même. Est-ce qu'il faut que tu le saches avant ou pas?
Bah ouais, je suis très inquiet. Je me suis posé la question parce que c'est vrai que c'est pas un sujet tabou, mais bon, ça peut surprendre un peu. En fait, avec le mois de février arrive la saison des amours pour plusieurs espèces et puis la Saint-Valentin. Alors qu'on aime ça ou pas, c'est dans l'air, dans les magasins aussi surtout. Et du coup, on s'est dit qu'on ferait bien une petite chronique sur la séduction chez les animaux.
Ok, bon, mais j'imagine que eux n'ont pas un vrai 14 février, Saint-Valentin, mais est-ce que nous, on s'est inspiré par contre des animaux pour séduire de notre côté?
Ah bon, c'est ce qu'on va essayer de décrypter. En fait, c'est compliqué parce qu'il y a plein de cas de figure différents, mais on va voir que c'est assez surprenant et super riche, assez rigolo aussi. Donc, est-ce qu'il y a des parallèles, des différences? Donc, on va essayer de placer le contexte pour faire des parallèles. Donc, imagine-toi dans une soirée chez des amis. Il y a plein de gens et puis là, tu la remarques. Elle est exceptionnelle, elle te touche et donc tu voudrais qu'elle te remarque. Comment tu fais?
Ben déjà il faut un jeu de regard, hein. faut savoir s'il y a quelque chose qui se passe ou pas.
Okay.
Mais non, après la danse, pourquoi pas, mais moi je pense que je vais perdre des points si je me mets à danser. Moi ça serait plus musique,
plus musique,
la guitare ou une connerie comme ça. Ouais.
D'accord, donc voilà, bah, finalement tu choisis pas la danse.
Non.
Dommage.
pas pour moi.
Il y en a qui dansent, hein. Comme la menthe religieuse, par exemple. Alors, on pourrait penser que du coup, ça réussit pas forcément au mâle, mais quand même, pour avoir le droit de se reproduire, eh ben, il danse autour de la femelle et il bombe l'abdomen. Ce serait le torse pour l'humain, hein. L'expression est restée. Et puis, chez les araignées sauteuses, eh ben, le mâle, il doit effectuer une danse super compliquée pour arriver à ses fins. Alors, il y en a d'autres aussi qui chantent, qui siffle, hein, on en a parlé pas mal pour la période de reproduction des oiseaux.
C'est
donc
vrai.
Tu serais peut-être un petit oiseau, en fait. Oh. Et puis, il y en a d'autres oiseaux qui ne chantent pas, mais qui dansent. Donc, le manakin, c'est un oiseau du paradis. On appelle ça un oiseau du paradis. En plus de battre des ailes, en fait, il fait un super moonwalk sur les branches. Et alors là, je vous invite à taper vidéo oiseau du paradis sur Internet parce qu'on a des images assez exceptionnelles.
Ça, c'est classe, quand même.
Donc, voilà, l'araignée... L'araignée doit faire une danse compliquée aussi pour arriver à ses fins.
Et s'il se loupe?
Et le mâle risque de se faire tuer et dévorer, comme chez la veuve noire.
Sympa ça.
Voilà, donc on va dire que tu as dansé comme un dieu ou chanté parfaitement bien. Et elle ne semble pas insensible à ton charme. Tu es encore en vie. Alors quelle est la prochaine étape?
Déjà ça sent bon quand même, ça sent bon. Mais s'il y a eu accroche, je pense qu'il faut y aller à fond, quoi, du coup. Hein. Là, c'est cadeau, offre, des fleurs, bijou.
Ok. Eh bah ouais, chez de nombreuses espèces d'oiseaux, le mâle s'applique à construire un magnifique nid pour séduire la femelle.
Pourquoi pas.
Donc, chez les jardiniers bruns, la femelle visite carrément les nids de chaque mâle et choisit celui qui lui plaît le plus.
Ah ouais, d'accord.
Donc, une belle maison, chez nous, ça peut-être marcher dans certains cas, ouais.
Ah, ça c'est pas mal. Mais on peut inviter aussi sa chérie au restaurant ou pour un dîner en tête-à-tête, quoi.
Ouais, alors là, la reine du tête-à-tête, pour le coup, c'est la menthe religieuse. Et elle, elle fait carrément le baiser de la mort. C'est-à-dire que quand le mâle a dansé, il s'approche, il commence à s'accoupler. Et là, il s'embrasse, vraiment bouche contre bouche. C'est assez surprenant pour des animaux.
Ouais.
Mais là, en fait, le baiser s'arrête pas et elle commence à lui dévorer la tête jusqu'à décapitation.
Oh là là.
Mais ça n'arrête pas l'accouplement. Et ce qui est surprenant, c'est que la décapitation augmente même la durée de l'accouplement et le taux de fécondation. Voilà.
Ouais, c'est un peu horrible quand même. Heureusement qu'on n'en est pas là, nous. Hein.
On ne sait jamais.
Qu'on n'a pas les mêmes pratiques. Et est-ce qu'ils font vraiment un choix? Il y a une sélection, ça marche comment?
Alors, bah, chez les poules, par exemple, les poules sont sélectives parce que pour choisir le père de leur progéniture, en fait, elles s'accouplent avec plusieurs mâles, mais après, elles éjectent le sperme de ceux qu'elles trouvent indésirables. En fait.
D'accord, donc là, donc, c'est après, par contre.
Après, voilà. Alors après, au contraire, il y a pas de sélection. On assiste à de véritables orgies sexuelles chez les serpents jarretières à ligne rouge qui vivent au Canada. En fait, ce serpent hiverne sous terre et se réveille à l'occasion des températures qui remontent. Mais avant même d'aller se nourrir, il doit se reproduire. Donc là, on assiste à des regroupements de 50 000 mâles. Et les femelles sont deux fois plus grosses, mais sont 500 fois moins nombreuses. Donc une femelle peut avoir 100 prétendants.
Ah ouais.
Ouais.
Là, il y a intérêt d'être costaud. Hein.
C'est intense.
C'est ça. Mais maintenant qu'on en sait un peu plus, je pense qu'on peut se lâcher sur les questions.
Vas-y.
Est-ce que avant l'acte sexuel aussi, on peut parler de préliminaires chez les animaux?
Alors, eh bien oui, il y a certaines chauves-souris qui sont expertes en langue. Et donc, c'est des chauves-souris frugivores, hein, et plus particulièrement certaines roussettes, qui s'adonnent fréquentement à la fellation ou au cunnilingus. Voilà. Donc, des éthologistes indiens ont observé une colonie de roussettes pendant plusieurs temps, et ils se sont rendus compte que la majorité des pénétrations commencent et se terminent par un cunnilingus. Voilà. Et ça marche aussi dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'il y a suite à une étude produite par des chercheurs chinois et britanniques, on a constaté que 14 des 20 femelles de chauves-souris prodiguaient une fellation à leur partenaire. Voilà. Mais une autre espèce ne s'embarrasse pas avec les préliminaires. Il y a un petit rongeur marsupial qui vit en Australie et qui est très très déterminé quand il s'agit de reproduction. En fait, le mâle peut s'accoupler avec différentes femelles pendant plusieurs semaines sans s'arrêter.
Ouais.
Donc il ne mange plus, il ne dort plus. Et chaque accouplement dure en moyenne 12 heures. Donc en fait, il se reproduit, il s'accouple jusqu'à épuisement. Et à la fin, il est tellement épuisé qu'il tombe malade. Donc, c'est du sacrifice, quoi. La femelle survit, donne naissance aux petits et les élève, et le mâle meurt. Ça fait une bouche en moins à nourrir.
Ouais, ok. Ouais. Donc ça, c'est le sens sacrifice, alors.
C'est ça.
Est-ce que l'acte sexuel a seulement un rôle de reproducteur, donc pour maintenir, on va dire, une espèce en vie, où il y a, du coup, la notion de plaisir? Qu'on pourrait le croire, en tout cas avec les roussettes, a priori.
Bah, c'est difficile d'y répondre parce qu'en fait, dans certains cas, c'est vraiment juste un rôle de reproduction. C'est effectivement du sacrifice. Par exemple, l'abeille mâle n'a qu'une fonctionnalité, l'accouplement avec la reine. Et donc là, pendant l'acte, son organe génital explose carrément en vol, et donc ce qui provoque la mort de l'individu peu de temps après. Et il y a un autre animal qui est assez incroyable, c'est la baudroie abyssale, c'est un poisson des grands fonds. Tu sais qu'il y a une petite antenne sur le haut du museau avec des bactéries qui font de la lumière.
Oui, oui, oui.
Voilà, elle a une tête assez préhistorique, assez, qui peut faire un peu peur.
Flippante aussi.
Ouais. Ouais. Et en fait, le mâle, il a un seul but, c'est se reproduire. Donc il va chercher la signature chimique de la femelle dans le noir, hein, parce qu'on est dans les abysses. Et une fois trouvé, il la lâche plus. Et il va s'attacher à elle comme une sangsue. En fait,
ouais.
Il est beaucoup plus petit, il est 10 fois plus petit, il s'attache sur un côté, un flanc, et en fait, là, son corps va totalement muter. Il va se transformer, ses organes internes vont fondre, vont se dissoudre, les sangs vont se mélanger, et en fait, il va peu à peu fusionner avec la femelle, et son corps va disparaître, et il va rester plus qu'une espèce de testicule qui va être sur le côté de la femelle, comme ça.
D'accord, mais c'est un truc de malade aussi.
Incroyable, ouais.
Fusionner les deux corps, du coup, là, c'est vraiment au sens propre, quoi.
Voilà, enfin, et il disparaît, il sera d'une certaine manière lié à elle à vie, mais voilà.
Mais il sera plus là, quoi.
Il sera plus là.
Et là, tu nous as donné pas mal d'exemples, au final, et c'est que des mâles qui se sacrifient, c'est toujours le cas?
Alors non, des fois, c'est aussi la femelle. Chez la sèche, par exemple, la femelle se reproduit avec plusieurs mâles, par contre, elle meurt après avoir pondu les œufs.
Ah.
Et parfois, il n'y a carrément pas besoin de mâles, en fait. Là, c'est assez intéressant aussi.
Ouais.
Le dragon de Komodo, en fait, l'accouplement peut marcher de manière classique, mais ça peut aussi marcher sans mâle. En fait, cette espèce est une très bonne nageuse, et si une femelle se retrouve sur une île déserte, sans mâle, eh ben, elle va pouvoir s'auto-féconder. C'est ce qu'on appelle la parthénogenèse. Donc, en fait, ces cellules vont se diviser et vont pouvoir s'auto-féconder. Et par contre, de cette auto-fécondation, naîtra que des mâles.
Ah oui.
Donc elle donnera naissance à des mâles. Quand ces petits auront atteint la maturité sexuelle, elle va pouvoir se reproduire avec eux. Et là, elle donnera naissance à une population viable et féconde.
D'accord. Donc voilà. C'est, ouais, ça relance, du coup, si jamais ils sont vraiment en voie d'extinction, ce genre de cas précis, elle peut relancer d'elle-même, le dernier individu de l'espèce peut relancer.
Ouais, exactement. C'est à partir d'une femelle, voilà. Et certains spécialistes de la sexualité pensent que dans un certain contexte, chez les humains, si jamais les mâles venaient à disparaître, eh ben, nous, les femmes, on aurait tout ce qu'il faudrait dans notre corps pour enclencher le processus de la parthénogenèse. C'est juste qu'on l'a pas encore, on l'a pas encore enclenché, mais ouais. Voilà, il y a une hypothèse qui dit que ce serait possible. On n'aurait plus besoin de vous. En tout cas, pas pour ça.
Ouais, c'est beau de rêver, Muriel, mais c'est pas prêt d'arriver. mais pour les mâles, c'est important quand même de transmettre leurs gènes. Au final, ça se retrouve chez certaines espèces en particulier. Ça marche comment?
Ouais, alors c'est très important. Ouais, chez certaines espèces, la sèche est fécondée par plusieurs mâles, donc il n'y a pas forcément besoin de transmettre. Enfin, en tout cas, ça se retrouve pas. Chez la poule, c'est la femelle qui choisit. Mais il y a des animaux qui ont développé des techniques assez incroyables pour s'assurer de la transmission de leurs gènes. Chez certains canards, le pénis a une forme telle qu'il nettoie en fait le vagin de la femelle pour éliminer la semence de celui qui est passé avant. Et chez les lions, c'est...
Là, c'est pour être sûr que ce soit lui, voilà.
Le père.
Qui, ouais. D'accord. Là, c'est une transmission directe de ses propres gènes.
Oui. Bon, après, c'est pas une technique sûre. Hein. Ça ne doit pas être un nettoyage non plus optimal. Mais voilà. Et puis, bon, je pourrais pas t'en dire plus, mais...
Très bien.
Et par contre, chez les lions, en fait, c'est l'aspect de lignée, là. Elle est poussée à son paroxysme. On se croirait dans une histoire royale. Mais en fait, donc, chez les lions, ça, c'est des animaux grégaires, hein, et les mâles protègent, en fait, le groupe. Mais quand le mâle dominant est déchu, qu'il est battu au combat par un ou plusieurs autres mâles qui veulent prendre sa place, eh ben, le battu s'en va, les mâles arrivent dans le groupe et là ils vont chercher les petits lionceaux que les femelles ont cachés, ils vont les tuer pour en refusant en gros que ce soit des petits qui soient pas de leur sang. Donc ils tuent les lionceaux, les femelles vont être en chaleur juste quelques semaines après. Là, c'est assez intense parce que du coup les femelles sont ultra demandeuses et elles veulent un accouplement toutes les 25 minutes. Ça fait 200 accouplements en 3 jours. Pour une femelle, voilà. Donc ça fait aussi du boulot pour les mâles. Et les nouveaux lionceaux arriveront 3 mois plus tard, voilà. Et là, c'est les lionceaux des mâles qui ont gagné, forcément.
Et jusqu'au moment où il perd sa place.
Jusqu'au moment où il perd sa place et il rebelote.
Ok.
Mais il peut y avoir plusieurs générations du coup de ce mâle dominant. Ouais.
D'accord, mais là c'est pareil, quoi. C'est horrible un peu comme situation. Il n'y a pas un peu de douceur dans ce bande de brutes.
Ah, je te reconnais bien là. Ah. Alors, la notion de plaisir est difficile à transposer, mais selon les pionniers de la sociologie, William Master et Virginia Johnson, le plaisir sexuel s'associe à l'orgasme. Alors après, on peut en discuter, mais des observations démontrent que l'orgasme est possible chez nos cousins les singes. On a observé par des caractéristiques physiques qu'ils atteignaient l'orgasme. Et de même, de nombreux cas d'homosexualité dans le règne animal attestent que les rapports sexuels n'y sont pas destinés uniquement à la reproduction. En 2005, on a pu observer la formation de 3 couples homosexuels parmi des manchots de Humboldt, dans un zoo en Allemagne. Et puis, la bisexualité est également courante, et l'homosexualité aussi, chez les bonobos qui utilisent le sexe, en fait, comme moyen de cohésion de groupe et d'apaisement des tensions. Donc, en fait, les bonobos, ils font l'amour tout le temps avec n'importe qui.
C'est un rôle social avant de... Ouais.
Voilà. Donc sachant qu'on partage quand même 98% de notre ADN avec les bonobos. Après...
Ouais.
Chacun fait ce qu'il veut.
Mais donc c'est une preuve que voilà, les raisons de copuler varient déjà selon les espèces, c'est tout ce qu'on a vu, et que l'homosexualité n'est pas contre nature, l'entendre.
Pas au sens scientifique, ouais. Et puis, voilà, on a vu que le monde animal est riche de modes de vie et de séduction différentes, donc à chacun de trouver le sien. Et puis, pour une histoire d'amour parfaite, en se fixant plutôt sur les humains, et ben, je vous donne rendez-vous pour la prochaine chronique nature, où Cyprien nous parlera d'éco-orgasme.
Parfait, ça c'est un bon sujet. Merci beaucoup Muriel, on se retrouve la semaine prochaine alors.
À la semaine prochaine.